Mercredi 17 juillet. Le message Facebook est accompagné d'une photo de Brooke Ripley dans une robe blanche cintrée qui lui arrive aux chevilles avec des baskets argentées. Elle a l'air pensive sur cette photo. Fragile, peu sûre d'elle. Ce n'est que parce qu'elle a conscience que, à peine 6 semaines plus tôt, cette jeune fille a été manipulée et abusée par Walter Fair qu'elle est capable de lire dans son âme. De voir tant dans cette flexion incertaine de sa tête, dans la minceur de son sourire. D'ailleurs, elle est impressionnée que Brooke Ripley soit allée au bal de promo malgré la situation horrible qu'elle vivait. Ce message Facebook, qui a été partagé 20 fois, est un appel de la tante de Brooke, Fiona, écrit au nom de la mère de la jeune disparue. Alix lit les commentaires qui sont tous à classer dans la catégorie « pensée et prière ». Personne n'a rien vu. Une fille nommée Mia, qui est au bord du cadre sur la photo du bal, a répondu « Je suis sur cette photo, je l'ai vue quelques minutes avant qu'elle disparaisse. Elle m'a dit qu'elle rentrait chez elle. Faites qu'on la retrouve. » Avec un émoji triste et un cœur. Alix clique sur le profil de Mia, qui est complètement privée, si bien qu'on n'a même pas accès à la liste de ses amis Facebook. Elle clique sur « Envoyer un message » et fixe un moment le fil de conversation vide ouvert dans Messenger. Que pourrait-elle bien lui dire? Et comment? Pourquoi n'a-t-elle jamais entendu parler de Brooke Ripley? Pourquoi son nom et cette photo d'elle, dans sa belle robe blanche, ne sont-ils pas synonymes pour elle de l'été 2014? Alix se rappelle que, en juin de cette année-là, elle s'occupait d'un bébé qui ne dormait pas et d'une petite fille de 6 ans survoltée. Elle était plongée jusqu'au cou dans le gouffre des premières années de maternité, donc il est tout à fait possible qu'elle ait entendu parler de cette affaire à l'époque et l'ait oubliée, à moins que cette disparition n'ait rapidement été étouffée par des nouvelles plus importantes. Elle éteint son écran en entendant des bruits de pas dans l'escalier. C'est Josie. Elle porte encore la tenue qu'Alix lui a prêtée samedi. Nous sommes désormais mercredi. Ses vêtements l'attendent dans sa chambre, propre et rangée. Malgré cela, elle porte encore ceux d'Alix.
Je me disais que si vous restez ici encore 2 ou 3 jours, je pourrais passer chez vous chercher quelques vêtements,
propose-t-elle. Une émotion forte transforme le visage de Josie.
Non,
répond-elle avec fermeté.
Non, merci.
La météo va bientôt changer, vous savez. Il va faire très chaud les prochains jours. Presque 30 degrés. Et je pourrais passer prendre les robes d'été qu'on a achetées ensemble.
Je vous promets, ça ira.
Insiste Josie, plus douce. Ne vous en faites pas.
D'accord. N'hésitez pas si vous changez d'avis.
Très bien, je vous le dirai. Et qu'est-ce que vous allez faire samedi?
Où est-ce que vous allez aller?
Elle essaie de ne pas fixer Josie trop intensément pendant que cette dernière cherche une réponse, car elle sait déjà qu'elle aura du mal à la trouver. Que Josie ne planifie rien au-delà de la fin de chaque journée.
J'imagine que...
Elle se perd un moment.
Je ne suis pas sûre. Par exemple, qu'est-ce que vous diriez si...
Alix se tend.
J'ai remarqué qu'il y avait un canapé-lit dans le bureau. Je pourrais y dormir pendant que votre sœur est là, peut-être? J'imagine que personne n'utilisera le bureau un samedi soir. Et je vous promets de me faire toute petite pour que vous puissiez profiter de cette soirée en famille.
La bouche d'Alix est sèche. Ça y est, elle est là. La ligne qu'elle a définie pour sa relation avec Josie dès le début. Cette ligne dont elle s'approche un peu plus chaque jour et qu'elles sont désormais sur le point de franchir. Une fois qu'elles seront passées de l'autre côté, Alix ne sait pas comment elle pourra reprendre le contrôle de la situation. Elle comprend, d'une façon certaine et écœurante, qu'elle doit se débarrasser de Josie d'ici à samedi après-midi. Mais elle sait également, de la même façon certaine et écœurante, que Josie la manipule et que l'obliger à quitter les lieux avant qu'elle ne l'ait décidé elle-même signera la fin du podcast, alors que leur projet prenait un tour captivant et sensationnel. Elle prend conscience de ce dilemme pendant les 2 secondes qu'il lui faut pour répondre.
« Je vais en parler à Nathan.
Je lui interdis le rez-de-chaussée samedi soir pour notre soirée entre filles. Donc elle va peut-être se réfugier dans le bureau pour travailler.
Elle lance un coup d'œil à Josie, rapidement, mais d'une façon assez appuyée pour observer chez elle un haussement de menton légèrement menaçant, avant qu'elle ne retrouve sa neutralité naturelle.
D'accord, mais dites-moi dès que vous le savez.
Ah oui, lui répond Alix chaleureusement, bien sûr. Quand Josie lui annonce qu'elle n'ira pas au travail cet après-midi-là, Alix invente une raison pour quitter la maison. Tout est tellement tendu depuis que les fers sont venus chez elle vendredi dernier. Elle vit chaque instant à l'aune de l'existence de ce couple sordide et complexe, dans l'ombre de la présence de Josie et de son chien chez elle. Le temps a perdu sa forme, son sens. Un nouveau week-end approche, et de l'autre côté de ce dimanche se trouve la fin de l'année scolaire. Ensuite, il y aura 6 longues semaines de temps déstructuré, de journées indécises. Et aujourd'hui, Alix a besoin de quelque chose qui lui paraisse normal, qui ne soit que pour elle. Elle dit à Josie qu'elle va rendre des livres à la bibliothèque, mais se dirige en fait vers le parc pour déjeuner. Le café de Queen's Park est le socle d'amples segments de la vie d'Alix depuis qu'ils ont emménagé dans le quartier avec Nathan 10 ans plus tôt. Elle y rencontre des fantômes et des échos d'elle-même à différents stades de sa vie. Enceinte de Léon, assise avec un nouveau-né et une fille de 5 ans, puis avec des mamans de la crèche, de l'école, avec Nathan et les enfants le week-end. Le chariot du glacier lui fait penser aux langues bleues vives de Léon et d'Elisa quand ils prennent une glace parfum bubblegum. Les bières dans l'armoire réfrigérée lui rappellent la sensation doucement vertigineuse de l'ivresse par un chaud après-midi d'été. Elle s'est déjà installée à chacune de ces tables et y revoit, comme dans des miroirs, tant de versions d'elle-même. Alors aujourd'hui, elle ira au café, y mangera un panini et vivra un nouveau fragment de sa vie en essayant de se sentir normale, de se sentir comme la Alix d'il y a 6 semaines, celle qui n'avait jamais rencontré Josie Fair. Elle commande un sandwich, celui qu'elle préfère, au fromage de chèvre et au jambon, ainsi qu'un thé glacé, et pose sur sa table une petite pagaie de bois numérotée en attendant que sa nourriture arrive, en attendant de se sentir à nouveau elle-même. La normalité pourrait se trouver là-bas, rêvasse-t-elle. De l'autre côté du parc, dans le bac à sable où il lui arrive encore, rarement, d'emmener les enfants quand ils se sentent petits, ou au parc d'aventure au niveau de la Tyrolienne, ou encore dans la ferme pédagogique, celle devant laquelle ils sont passés avec Nathan, ivre, le soir de son 45e anniversaire, quand l'air chaud de la nuit courait sur leur peau nue. Son panini arrive et, bien que ce soit le même que d'habitude, il ne lui rend pas sa normalité. Comme si Josie la lui avait dérobée et l'avait avalée pour la cacher dans sa noirceur. Alix pense à la clé tachée de sang sous le matelas, avec le numéro 6. Elle revoit Josie fouiller sa poubelle jaune pendant qu'ils étaient sortis. Elle l'imagine dans sa maison, maintenant, portant les vêtements d'Alix, son maquillage, éparpillant ses cheveux et ses peaux mortes partout où elle va. Elle entre dans leur bureau, remarque le canapé-lit, va dans leur salle de bain, subtilise son fond de teint. Puis Alix voit Walter coucher avec Brooke. Erin, l'oreille plaquée contre le mur. Josie, faisant comme si de rien n'était, continuant sa vie. Elle repousse son assiette et se lève. Elle doit finir ce podcast, y mettre un terme, plonger dans cette souillure, arriver au bout de cette histoire misérable, virer Josie de chez elle et reprendre le contrôle de sa vie. Mais d'abord, il faut qu'elle passe devant l'appartement des fers, qu'elle regarde par la fenêtre, qu'elle se fasse une idée de ce que Walter fait et pense. 12h30. Alix lui a dit qu'elle en avait pour 1 heure, qu'elle reprendrait l'enregistrement à son retour si Josie se sentait d'attaque. 1 heure, c'est beaucoup, se dit-elle. C'est un long moment à passer seule chez quelqu'un. Alix lui a dit de se servir pour le déjeuner. Prenez ce que vous voulez dans le réfrigérateur. Josie l'ouvre. Elle y trouve un reste de baba je sais pas quoi, la chose marron qui a rendu Fred malade. Elle tressaille.
puis elle voit un bloc de cheddar et se dit qu'une tranche de fromage avec du pain et du beurre lui suffiront. Elle grignote ce déjeuner léger à la table de la cuisine, les yeux perdus dans le vide. Fred renifle la pièce à la recherche de miettes. Le sol est sale, ce qui la surprend. Le petit lien métallique qui fermait le sachet de pain de mie est par terre depuis déjà 3 jours. Personne ne semble le remarquer. Ça n'a rien à voir avec l'image qu'Alix présente sur Instagram. D'ailleurs, tout est très différent quand on y regarde de près. Mais ça n'a pas d'importance. Josie n'était pas très ordonnée de nature. Elle ne l'est devenue que parce que c'est ce que Walter voulait, et le fait qu'Alix puisse laisser traîner la tache d'un sachet de pain sur le sol 3 jours sans que cela suscite une dispute la réjouit. Un moment plus tard, elle se voit traverser la cuisine, la ramasser et la fourrer dans la poche de son pantalon. Elle ouvre et referme les tiroirs doux comme de la soie, jusqu'à ce qu'elle trouve celui dédié au bazar, celui où l'on range tout ce qui ne va pas ailleurs. Elle détaille les menus à emporter, les stylos, les paquets de mouchoirs, les pinces à dessin, les carnets de timbres, les bouchons, les élastiques. Tout a été jeté là-dedans pêle-mêle. Il n'y a aucun ordre. Ses doigts touchent le vernis d'un papier photo. Elle en sort une bande de photos d'identité. C'est Léon, l'air triste et sérieux, le col bleu pâle de sa chemise d'uniforme à peine visible. Elle la glisse dans sa poche. Elle pense à son tiroir à sous-vêtements à la maison, aux trouvailles et trophées cachés sous ses culottes. Pas que ceux d'Alix, ceux des autres aussi. Elle ressent le besoin de rentrer, juste un instant, pour y ranger le dessin d'enfant, la tâche et les photos de Léon. Elle pourrait le faire, sans doute. Elle ne passerait qu'en coup de vent, personne ne la verrait. Elle ira demain, se convainc-elle, après le travail. Puis elle sort du tiroir une carte de visite noire et brillante, avec les coordonnées de Nathan. Le nom de son entreprise, Condor & Bright, conseil en propriété commerciale EC1, et ses numéros de téléphone, portable et bureau y sont inscrits. Elle la prend avec elle. Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix. Une jeune femme sémillante apparaît à l'écran. Ses boucles blondes volumineuses sont attachées en arrière. Elle porte de larges anneaux dorés aux oreilles et un cardigan noir moulant. Elle est assise sur un petit canapé rouge dans un bar mal éclairé. Elle se recoiffe et essaie plusieurs poses.
D'ici, vous pouvez voir mon soutien-gorge ou pas ?
Non, c'est bien comme ça, répond le journaliste hors champ.
Parfait. Alors allons-y. C'est parti.
Un bandeau apparaît. Kathleen Rand.
Je n'étais pas amie avec Josie, mais je savais qui c'était. Et elle savait qui j'étais. On vivait dans le même HLM quand j'étais petite. Et je me souviens d'elle et de sa mère. Surtout de sa mère. Tout le monde connaissait Pat O'Neill. C'était un vrai personnage et il valait mieux être dans ses bonnes grâces.
Kathleen se force à rire.
Ma mère m'avait raconté que Josie avait quitté la maison à 18 ans et à l'époque on disait qu'elle était partie avec un homme plus vieux qu'elle. La dernière fois que je l'ai vue, je devais avoir 10 ans. Et ensuite, rien pendant des années et des années, jusqu'à ce que j'aille à la retoucherie où elle travaillait. Instant couture, à côté de la station de métro à Kilburn. Je l'ai reconnue tout de suite. Elle n'avait pas changé d'un pouce, étrangement. Je serais prête à parier qu'elle portait les mêmes vêtements que quand elle était ado. Donc j'ai papoté avec elle et elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai parlé de ma carrière de comédienne. Je lui ai dit que j'avais des difficultés. Vous savez, comme tous les comédiens, j'en ai pas fait des tonnes. Alors elle m'a dit, là je répète ces mots précisément. J'ai peut-être un petit boulot pour toi, donne-moi ton numéro. Donc je le lui ai donné et... Ouais, quelques jours plus tard, elle m'a appelé. Et voilà. J'étais foutue. Dans la merde jusqu'au cou.
12h40. Le trajet qui mène de la verte luxuriance de Queen's Park à la rue sale et grise de Josie dure 12 minutes. Même sous un grand soleil, les façades de stuc sont avilies par leur délabrement. Alix observe d'abord l'appartement depuis le trottoir d'en face, puis elle va regarder directement par les fenêtres. Elle voit une table installée dans le bow window, en bois sombre, démodé. Autour sont disposées trois chaises foncées aux pieds et dossiers faits de bois torsadé. Elle distingue un canapé devant une télévision à l'air antique, des murs nus, une cuisine ouverte sur le salon insérée dans une alcôve au fond de la pièce, des placards de pain avec des poignées en plastique blanc, un couloir sombre qui mène à une porte. Les rideaux en denain de la seconde fenêtre, plus petite, sont à moitié tirés. Elle aperçoit une commode blanche en formica et un lit parfaitement fait, avec une couette, deux oreillers pâles à fleurs et deux coussins en denain. On dirait une location saisonnière qu'on viendrait de quitter et qui aurait été rangée, nettoyée et préparée pour ses prochains occupants. Il n'y a aucune trace de vie. Elle revient vers le grand bow window, balaie à nouveau la pièce du regard. Difficile de croire qu'une dispute domestique a eu lieu ici, que, dans la nuit de vendredi à samedi, un homme fort a battu sa femme frêle jusqu'au sang, jusqu'à ce qu'elle soit couverte de bleu. « Et où est-il, cet homme ?» se demande-t-elle. Un ordinateur portable fermé est posé sur la table à manger. Rien d'autre. Josie a pourtant dit qu'il ne sortait jamais, qu'il était tout le temps à la maison. Mais il ne semble pas s'y trouver. Alors, où peut-il bien être? Elle fixe le canapé et imagine Walter et Josie assis l'un à côté de l'autre après les horribles événements avec Brooke, à regarder la télévision en silence. Puis elle se figure Walter, 5 ans plus tard, tapant la tête de sa femme contre le mur, enragé par ses accusations tardives. Elle se retourne et jette un coup d'œil sur sa gauche. Un bus à Impérial descend bruyamment Kilburn High Road au bout de la rue, et à quelques dizaines de mètres de là, en direction du sud, vers Maida Vale. En le voyant, elle pense à Brooke Ripley, descendant d'un bus avec sa robe fourreau blanche il y a 5 ans, ici, juste là, vraiment, à l'endroit où Kilburn High Road rejoint Maida Vale. Ici, à 2 minutes de marche de l'appartement des Fers. 14h. Alix fixe intensément Josie. Elle essaie de détendre son visage, ce qui n'est pas aisé car à l'intérieur, elle n'est qu'angle coupant, pique ses noirceurs. Josie a mis son casque. Elle boit un thé dans la tasse préférée d'Alix. Elle la soupçonne de savoir qu'il s'agit de sa tasse favorite et de la choisir sciemment chaque matin. Elle règle le volume sur la console puis s'éclaircit la voix, observant les ondes qui se forment sur son moniteur. Sa prochaine question lui pèse sur la langue, si lourde qu'elle pourrait accidentellement l'avaler et s'étouffer. Elle se racle une nouvelle fois la gorge. Qu'est devenu Brooke ? Brooke ? Alix sourit et acquiesce. Oui, Brooke. Aucune idée. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle.
Vraiment ?
Oui.
Vous n'avez jamais essayé de la retrouver ?
Josie plisse les yeux, puis lui lance un regard interrogateur.
Non, pourquoi?
Après ce qu'elle avait fait?
Elle savait peut-être où se trouvait Roxy.
Alix observe le visage de Josie pendant qu'elle cherche une réponse.
Non,
reprend-elle après une pause. Non, elle n'aurait pas su.
Il y avait eu cette grosse dispute. C'était fini entre elles. Complètement.
Alix lève un sourcil, froidement, ne parvenant plus à dissimuler ses sentiments.
Qu'est-ce que vous diriez si j'essayais d'entrer en contact avec elle, pour avoir son point de vue, pour le podcast?
Non. Une réponse aussi rapide et définitive qu'une porte que l'on claque.
Pourquoi?
Parce que... Non, c'est tout. C'est trop dur.
Je vous raconte ce que je veux bien vous raconter. Ce que j'ai besoin de vous dire. Moi, de l'autre côté de ce podcast, je vais devoir reprendre ma vie, vous voyez? Montrer mon vrai visage. Et si vous la mêlez à ça?
Elle s'interrompt et inspire. Alix patiente.
Je ne lui fais pas confiance. C'est tout. Vous devez quand même vous demander ce qui lui est arrivé, non?
Bien sûr que je me le demande.
Tout le temps. Je me demande ce qui est arrivé à Roxy. À Brooke aussi. Tout le temps. C'est comme si ma vie... C'était terminé ce jour-là, vous savez? Comme si tout ce qui était bien avait pris fin.
Et Erin, alors?
Quoi?
J'imagine qu'elle vous apporte de la joie, non? Comment a-t-elle vécu le départ de sa sœur? Vous parlez très peu d'elle.
Josie hausse les épaules.
Y a pas grand-chose à dire.
Et si on essayait tout de même?
Josie hoche la tête.
Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix.
Dans une reconstitution, une femme assise sur un canapé regarde par la fenêtre tandis qu'un bus passe. Un bandeau apparaît.
Enregistrement du podcast d'Alix Summer, 17 juillet 2019.
Après toute l'histoire avec Brooke, ma relation avec Walter est devenue une partie d'échec. J'avais l'impression d'être un pion déplacé de case en case par une immense main invisible qui ne prenait pas en compte mes envies ni mes besoins. Walter était le roi, bien sûr, et toute la vie de la famille était organisée pour le protéger. J'avais créé une sorte de barrière transparente autour de ma famille, devant la porte de notre appartement. Je le faisais déjà depuis longtemps, bien entendu. Depuis 14 années que les filles étaient scolarisées, avec les mères, les enseignantes, les assistants sociaux, mes collègues et les voisins de l'immeuble et des maisons attenantes. Je gardais tout le monde à distance. Mais ça, c'était quand personne n'avait rien fait de fondamentalement répréhensible. Quand tout ce qui m'inquiétait, c'était d'être jugée parce que mes enfants ne se comportaient pas bien, parce que j'avais un mari violent. À partir de ce moment-là, je courais le risque d'être jugée parce que mon mari abusait de mineurs, couchait avec elle chez lui, et oui, je suis allée sur son ordinateur. Et oui, il faisait des recherches illégales, répugnantes, ignobles. Et oui, Walter était un pervers et un criminel, dégoûtant, repoussant. Un homme que je ne pourrais plus jamais toucher de ma vie. C'était impossible. C'est ce que je lui ai dit. Que notre mariage était terminé. Donc j'ai fait la cuisine, le ménage, j'ai travaillé et j'ai souri aux gens à qui je faisais confiance. J'ai baissé la tête en croisant ceux dont je me méfiais. Et il y a 2 ans, j'ai dit à Walter que je voulais un chien parce que je ne supportais plus de ne rien avoir à aimer sur cette terre. Il m'a dit que si on prenait un chien, il voulait un Akita Inu ou un Doberman, un chien dont il pourrait se sentir fier en le sortant dans la rue. Alors je lui ai dit non, ce chien est pour moi. Je veux un chien que je puisse porter comme un bébé parce que tu as foutu en l'air mes filles. Tu les as détruites. Parce que, à ce moment-là, Roxy était partie. Walter avait commencé à abuser d'Erin.
Après un fondu au noir, le générique de fin apparaît. 14h30. Abuser? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Josie penche légèrement la tête en arrière et lève les yeux au ciel.
Alix attend, le souffle coincé douloureusement au fond de sa gorge. Elle a l'impression qu'elle le savait depuis le début. Comme si ça avait toujours été l'horrible bruit de fond de tout ce que Josie lui confiait.
Je veux dire que chaque nuit, quand je m'endors, Walter sort du lit et il va dans la chambre d'Erin. Et le matin, quand je me lève, il est assis à la table du salon comme si de rien n'était.
Et, enfin, comment est-ce que vous pouvez en être sûr?
Je le sais, c'est tout. Il se prend pour un roi, vous voyez. Il me laisse gagner de temps en temps, comme pour le chien. Comme pour le dîner chez vous. Mais il le fait comme un monarque le ferait. Comme une friandise qu'il me lance,
explique-t-elle en faisant un geste du bras.
Et je dois courir pour l'attraper. À ses yeux, tout ce qui se trouve dans cet appartement lui appartient. C'est à lui. Et à partir du moment où je lui ai dit que moi, je ne lui appartenais pas, qu'il n'avait plus le droit de me toucher, il s'est tourné vers ce qu'il y avait de plus proche. Il a pris Erin. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu quoi que ce soit?
Josie secoue la tête.
Je mets mes bouchons d'oreille. Je reste dans ma chambre jusqu'à ce que le jour se lève.
Putain, Josie !
Alix ne peut s'en empêcher. Elle ne peut plus contenir son choc, son désarroi. Elle est censée être impassible. Son rôle n'est pas de juger ou de réagir, elle doit écouter et poser des questions. Mais ça, et elle coupera sa réaction au montage, elle le sait déjà, c'est trop cru et bestial pour qu'elle puisse garder son calme. Surtout, et oui, elle sait que c'est un cliché terrible, surtout parce qu'elle aussi a une fille. « J'étais censée faire quoi ?» rétorque Josie. « Ça s'est fait si progressivement. » Au début, je m'en suis pas rendu compte. Il m'arrivait quelquefois de me réveiller et de trouver le lit vide. Je lui demandais où il était parti. Il me disait qu'il avait parlé avec ses enfants au Canada. Je ne comprenais pas pourquoi ça devait se faire en plein milieu de la nuit. Pourquoi pas le soir ? Quand j'ai enfin pris conscience de ce qui se tramait, eh bien, j'ai attendu qu'elle vienne m'en parler. Erin, je l'ai attendue. Et au lieu de ça, elle s'est refermée de plus en plus. Elle arrêtait de manger ce que je lui préparais. Elle avait toujours été difficile, mais ça a empiré très largement et elle m'a demandé des petits pots pour bébé. Pardon ? Oui, elle m'a dit. Je veux manger ce que je mangeais quand j'étais petite. Ce que tu me donnais dans des petits pots, quand tu me nourrissais à la cuillère. Bon, je me suis dit que c'était une sorte de... Comment dit-on ? Régression. Elle voulait redevenir un bébé, pour se sentir en sécurité. Josie, excusez-moi, mais... Qu'a dit Walter ? Insiste Alix, sentant que Josie survole de vastes pans d'une histoire importante. Enfin, vous avez dû lui en parler, non ? Josie secoue la tête, et Alix soupire si fort que les ondes sur son moniteur oscillent prodigieusement. Je suis désolée, Josie, hein, sincèrement, mais j'ai besoin de bien comprendre ce qui s'est passé. Vous me dites qu'après ce qui est arrivé entre Walter et Brooke, votre fille a fugué. Vous avez arrêté d'avoir des relations sexuelles avec votre mari, et que par conséquent, il a commencé à rendre des visites nocturnes à votre fille aînée, adolescente, elle aussi, chaque nuit, pour abuser sexuellement d'elle. Votre fille a ensuite régressé au point de ne plus vouloir manger que des pots pour bébé et arrêter de sortir de sa chambre. Et cette situation dure depuis 5 ans ? À peu près, oui. La voix de Josie est tranchante, son visage fermé. Vous n'en avez parlé ni à votre fille, ni à votre mari ? Non, confirme-t-elle. C'est juste... arrivé. Exactement. Et votre fille, Erin ? Est-ce qu'elle était contrainte de rester chez vous d'une façon ou d'une autre ? Est-ce qu'elle pouvait partir ? Elle aurait pu partir. Mais elle ne l'a pas fait. Non. Jamais. Pourquoi, selon vous ? Il la manipulait, j'imagine. Il l'a probablement convaincue que c'était acceptable. Comme il fait toujours. Voilà. Alix laisse passer un silence. Ses auditeurs en auront besoin. Et surtout, elle en a besoin. Puis elle pose la question dont elle redoute tant la réponse. Avant vendredi soir, quand vous vous êtes disputé avec Walter et qu'il vous a frappé, quand aviez-vous vu Erin pour la dernière fois ? Josie hausse les épaules, renifle et remue légèrement sur sa chaise. Il y a 6 mois, sans doute. 1 an, peut-être. Vous ne l'avez pas vue du tout ? Pas une seule fois ? Même pas pour aller aux toilettes ? Elle attend que je quitte la maison. Elle ne veut pas me voir. Mais comment est-ce que vous le savez ? Elle sortirait si elle voulait me voir, non ? Elle sait bien quand je suis là. Je la nourris. Je lui prépare son repas. Quand elle a fini, elle dépose les pots vides devant sa porte. Et ne pensez pas, même pas une seconde, que je ne veux pas la voir, parce que je veux la voir plus que tout. Mais quand quelque chose dure aussi longtemps, eh bien, vous savez, ça devient de plus en plus difficile, vous comprenez ? De revenir en arrière pour faire ce qu'il faudrait. Je m'arrêtais devant sa porte chaque jour, 2-3 fois par jour. Je m'arrêtais. Je touchais la porte et je faisais comme ça avec ma main.
explique-t-elle en formant un poing.
Comme si j'allais frapper. Je ne le faisais jamais, Alix. Jamais. Et ne pensez pas que je ne me déteste pas à cause de ça, parce que je me hais. Tellement. Je hais le fait qu'il m'ait fallu tant de temps pour rompre tout ça. Y mettre un terme.
Et il a fallu que vous veniez dîner chez nous.
Oui. Comme je vous l'ai dit, quand nous nous sommes rencontrés, le but c'était de briser mes chaînes. Aller dans ce pub chic pour mon anniversaire. Arrêter de porter du tenin. Apprendre à vous connaître. Faire ça,
poursuit-elle en désignant l'espace qui les sépare.
C'est comme si j'avais d'abord eu besoin de me libérer de ces petites choses pour pouvoir m'attaquer à la véritable montagne.
Alix hoche lentement la tête et observe Josie, les yeux mi-clos.
Je vois, commande-t-elle, même si elle n'est pas bien sûre que ce soit vrai.
Très bien. Vous dites qu'Erin vit comme une recluse depuis plusieurs mois, qu'elle ne quitte ni sa chambre ni la maison. Alors où est-elle allée exactement vendredi soir? Chez quel ami?
Josie se redresse.
Je n'en sais rien.
Une ancienne camarade d'école?
Oh, je ne pense pas. Non, ce doit être quelqu'un qu'elle connaît des jeux vidéo, une amie d'Internet.
Vous devez être terriblement inquiète pour elle.
Oui, absolument. Je m'inquiète tant. Pour elle, pour Roxy.
Et Walter, vous vous inquiétez aussi pour lui?
Oh non. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais pour lui? C'est un pervers, un agresseur, un monstre. Je le méprise de tout mon être. Je suis contente qu'il...
Elle s'interrompt brusquement.
Contente de quoi? Qu'il m'ait frappée? Qu'il m'ait fait du mal? Ça m'a permis de m'en sortir. De m'extirper de cette prison malsaine. Je subirai à nouveau ses coups, l'un après l'autre, si c'est pour être libre.
Son visage est déterminé. Et Alix aurait aimé que ce soit un documentaire, pas un podcast. Elle voudrait que ses auditeurs puissent voir la façon dont le visage de Josie s'est figé en un masque. Puissent voir cette unique larme de glycérine apparue dans un de ses yeux noirs qui dévale actuellement sa joue sans dévier.
Qu'est-ce qu'il va lui arriver à Walter?
Vous allez raconter à la police ce qu'il a fait à Erin?
Josie essuie la larme du dos de la main et renifle.
Non. Ce n'est pas à moi de raconter ça. C'est à Erin de le faire.
Est-ce que vous lui en avez parlé?
Non. Je ne lui en ai pas parlé. Elle ne répond pas quand je l'appelle. Pas plus quand je lui écris.
Alix reste bouche bée et soupire.
Rien de tout ça n'a de sens. Rien du tout.
Vous avez pensé à retourner dans l'appartement pour fouiller l'ordinateur d'Erin et voir ce que vous pourriez trouver?
Je n'y connais rien en ordinateur.
D'accord, mais moi, oui. Je peux vous accompagner?
Non. Non, merci. Erin me reviendra quand elle sera prête.
Mais enfin, Josie, pensez aux choses comme ça.
Erin a été abusée sous votre toit pendant des années. Vous n'avez rien fait pour la protéger. Elle attend que vous quittiez l'appartement pour aller aux toilettes. Qu'est-ce qui peut bien vous faire croire qu'elle va entrer en contact avec vous maintenant?
Josie soupire et hausse les épaules.
Vous avez sans doute raison.
Oui, certainement.
Mais quoi qu'il en soit, c'est mieux pour elle de ne plus être dans l'appartement avec cet homme. Quoi qu'il arrive, au moins, elle est libre.
15h30. Alix attend devant le portail de l'école. Elle a pris le chien qui n'était pas sorti de la journée. Elle avait besoin d'une excuse pour partir plus tôt, pour rester plus longtemps dehors.
Sa tête menace d'éclater. Elle a envie de vomir.
Des parents d'élèves discutent avec elle et elle leur répond, heureuse d'avoir une occasion de sortir complètement de l'endroit où elle était confinée ces dernières heures. Fred voit un autre chien, aboie, et Alix s'excuse auprès du maître. Les enfants s'extasient en voyant le pomme-chi, et Alix les prévient, « Attention, il peut être un peu agressif. » Quelqu'un lui demande si c'est le sien, elle répond, « Non, c'est celui d'une amie. » Elle se reprend, « de quelqu'un que je connais. » Elle emmène les enfants au parc, et les regarde sur les balançoires, tenant le chien sous son bras. Elle aimerait qu'il puisse parler. Il sait, lui, se dit-elle. Il sait tout. Elle voudrait discuter avec la mère de Josie, mais elle lui a promis qu'elle n'en ferait rien. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à Walter, à son comportement quand il était chez elle vendredi soir pour le dîner. Les tout nouveaux vêtements avec les plis, la consommation d'alcool modérée, de bière seulement pendant toute la soirée, le ton calme quand il lui a parlé de sa Jojo dans le studio d'enregistrement, de sa façon de mentir et d'inventer des histoires pour coller à son propre récit. Elle a attribué ce discours à son comportement de manipulateur. Elle se dit que tout cela faisait partie de son jeu, et c'était peut-être le cas. Mais elle ne parvient pas à se défaire du sentiment désarçonnant qu'il y a autre chose derrière cette histoire atroce, quoique assez typique, d'une famille brisée par le dysfonctionnement terrible d'un homme dominant et manipulateur. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être, pas du tout. C'est ce qu'il lui a dit. Et même si elle est encline à croire une femme qui raconte qu'elle a été agressée, son instinct lui dit également qu'elle doit se méfier de Josie.